Le Monde demain, janvier-février 2023. Irez-vous en enfer? Écrit par M. Richard Himes et interprété par Jack Boyer. L'article commence. Vous inquiétez-vous de ce que certains de vos amis ou de vos proches souffrent en enfer, car ils ne furent pas de fidèles et chrétiens ou parce qu'ils n'acceptèrent jamais le nom de Jésus-Christ? Qu'en est-il de votre propre avenir? La vérité à ce sujet révèle la formidable miséricorde de Dieu et sa justice. Et ce n'est pas ce que beaucoup de gens supposent. Dans l'ouvrage collectif « La France des valeurs », publié en 2019, voici ce que la sociologue Claude Dargent rapporte dans un chapitre intitulé « Quatre croyances religieuses en progression ». Si la croyance en Dieu a régressé de 12 points depuis 1981, on constate au contraire une progression des croyances en une vie après la mort, au paradis, à l'enfer et à la réincarnation. Les champions en la matière sont les musulmans qui croient à 80% en une vie après la mort, à 91% au paradis et à 84% à l'enfer. Ces trois croyances sont également partagées respectivement par 69%, 61% et 35% des catholiques pratiquants, les non-pratiquants se situant nettement en dessous, à un niveau proche ou à peine supérieur à la moyenne nationale. Quant aux sans-religions, ils sont 35% à croire à une vie après la mort, 27% au paradis et 17% à l'enfer. Des croyances partagées par un nombre significatif des 18 à 29 ans. En Suisse, l'écart entre la croyance en une vie après la mort et la croyance au paradis est considérable. La revue Christianisme Aujourd'hui rapporte « Alors que 39% des Français croient en la vie après la mort et 35% croient au paradis, moins d'un cinquième des Suisses croient au paradis et un dixième à l'enfer. » D'autres préfèrent des conceptions moins communes. 7% croient en un monde sans Dieu dans lequel ils retrouveront leurs proches. 9% croient en la réincarnation. 17% se font une autre opinion, encore sur la vie après la mort. Les tourments dans le feu éternel de l'enfer constituent une idée effrayante. Pouvons-nous imaginer ce que doivent ressentir ceux qui s'attendent à aller en enfer après leur mort? Cependant, beaucoup d'autres se moquent du concept de l'enfer et du paradis. Combien de gens rejettent le christianisme dans son ensemble lorsqu'ils entendent que seuls ceux qui reçoivent les enseignements de Jésus-Christ et qui les acceptent pourront aller au paradis? Quelle sorte de Dieu enverrait des milliards d'êtres humains en enfer au seul motif qu'ils n'aient pas entendu le message de Jésus en raison de l'époque ou du lieu où ils vécurent? Cela semble cruel. Pourquoi autant de croyants pensent-ils que des milliards de gens, morts sans avoir entendu parler de Dieu ou du nom de Jésus, passeront l'éternité dans les tourments inimaginables de l'enfer? S'agit-il vraiment de ce que le Dieu de la Bible a prévu pour les êtres humains qu'il a créés? Seriez-vous surpris d'apprendre que la Bible enseigne que personne ne brûle en enfer? Eh oui, il n'y a pas d'âme immortelle criant et hurlant pour l'éternité dans les flammes de l'enfer, et il n'y en aura jamais. Certes, un enfer existera, mais il ne ressemblera en rien à ce que beaucoup de gens imaginent à tort. La Bible enseigne une vérité qui devrait à la fois vous réconforter à propos de votre avenir et vous rassurer concernant la bonté, la miséricorde et la justice parfaite de Dieu. Si certains de vos proches sont morts dans leur péché, ou si vous avez peur car un individu vous a maudit en disant « Va en enfer », vous devez lire cet article. Ne croyez pas Dante. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que, de nos jours, les idées les plus populaires au sujet de l'enfer émanent principalement d'une œuvre de fiction. Je veux parler de la célèbre œuvre poétique « La Divine Comédie », écrite il y a plus de 700 ans par l'auteur italien Dante Alighieri. Ce poème est divisé en trois parties, « Inferno »,« Purgatorio » et « Paradiso », c'est-à-dire l'enfer, le purgatoire et le paradis. Sa description expressive des âmes hurlant au milieu de souffrances terribles est le point central des croyances de millions de gens de nos jours. Dans la Divine Comédie, Dante imagina que l'ancien poète romain Virgile soit son guide dans un voyage au cœur de l'enfer. Au-dessus de la porte d'entrée de l'enfer se trouvent ces paroles menaçantes. « Vous qui entrez laissez toute espérance !» Voici comment Virgile présenta à Dante sa visite de l'enfer. « Je serai ton guide, et je te tirerai d'ici vers un lieu éternel, où tu entendras les cris désespérés, tu verras les antiques esprits dolents, qui chacun crie à la seconde mort. » Notez la mention aux cris désespérés dans un lieu éternel décrit par Dante. Beaucoup sont surpris d'apprendre que le concept de l'âme immortelle ne vient ni de l'Ancien Testament, ni du Nouveau, mais qu'il a été adopté par des théologiens catholiques qui étaient familiers avec les philosophies de la Grèce et de la Rome antique. Voyez cet aveu de l'auteur latin Tertullien. La nature à elle seule nous éclaire sur certains dogmes, sur l'immortalité de l'âme, familière à la plupart. Je dirais donc avec un Platon, toute âme raisonnable est immortelle. Mais en tant que disciples du Christ, nous devons suivre l'opinion de la Bible, pas celle de Platon, ni celle de la plupart. Lisons attentivement un des passages les plus connus de la Bible, souvent appelé le verset d'or, Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean affirme ici que Jésus est mort afin que vous et moi ne périssions pas. La vie éternelle est un don de Dieu, pas quelque chose d'inhérent à notre âme humaine. Plus loin, dans le Nouveau Testament, les écrits de l'apôtre Paul confirment cette vérité importante. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire ». Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? 1 Corinthiens 15, versets 53 à 55. Est-il possible d'être plus clair ? Jésus donna sa vie afin que nous, les êtres humains, ne périssions pas, que nous ne soyons pas morts pour l'éternité. Il est venu afin que nous ne soyons pas détruits à tout jamais, que nous ne perdions pas notre vie pour l'éternité. Beaucoup sont surpris d'apprendre que la Bible enseigne que l'âme humaine est mortelle. C'est par la mort et la résurrection de Jésus que vous et moi pourrons revêtir l'immortalité lors de la résurrection des morts. Nous savons que le corps meurt, mais qu'en est-il de l'âme ? Jésus nous dit que Dieu est capable de détruire à la fois le corps et l'âme dans le feu de la Géhenne. Matthieu 10, verset 28. Comment cela serait-il possible si l'âme humaine est immortelle ? Nous voyons assurément que le corps humain est détruit à la mort, mais qu'arrive-t-il aux personnes qui iraient soi-disant en enfer ? Nous devons comprendre que nous ne possédons pas l'immortalité en naissant. C'est un don de Dieu. Souvenez-vous que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Notez que ce verset ne déclare pas « le salaire du péché, c'est la vie immortelle en enfer ». La rétribution du péché n'est pas la vie éternelle, mais la mort, c'est-à-dire l'absence de vie. Si vous possédez déjà une âme immortelle, si vous avez déjà la vie éternelle, alors vous n'avez plus besoin que Dieu vous la donne. Oui, une âme peut périr. Le prophète Ézéchiel nous rappela que l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4. Dans ce verset, le mot hébreu utilisé pour âme, nefesh, se réfère à la vie physique ou naturelle. Dans Genèse 1, ce même mot, nefesh, se réfère à toute chose ou toute créature vivante, à toute vie animale, y compris les mammifères, les poissons et les oiseaux. La Bible enseigne qu'il existe un esprit humain, appelé l'esprit de l'homme, mais que l'esprit humain n'est pas une âme immortelle. Mais alors, comment une âme pourrait-elle aller en enfer ? Quel enfer ? Lorsque nous lisons la Bible en français, nous devons comprendre que différents mots employés dans le texte original inspiré ont été traduits par enfer. Un mot en hébreu et trois en grec. Ces quatre mots ont trois significations distinctes. Ceux qui lisent la Bible en français ou dans une autre langue moderne peuvent aboutir à des conclusions erronées s'ils pensent que le mot enfer signifie toujours un feu éternel, car ce n'est pas le cas. Une des significations du mot enfer dans la Bible vient de l'hébreu « Sheol » ou du grec « Hadès ». Cet enfer signifie simplement l'abîme ou la tombe. Enfer vient du latin « infernus » qui se traduit littéralement par « lieu bas » ou « qui est en dessous » et cela s'applique à une tombe ou à un caveau creusé dans le sol. Bien entendu, de nos jours, beaucoup de gens choisissent la crémation plutôt que l'ensevelissement. Mais le lien ancien entre Sheol, Hadès et la tombe est très clair, c'est le lieu où nous allons jusqu'à la résurrection à venir. Il est également reconnu par les traducteurs de la Bible. Le mot hébreu Sheol apparaît 65 fois dans l'Ancien Testament. Certaines versions traduisent parfois ce mot par enfer, mais dans la traduction de la Bible en français que nous utilisons, nouvelle édition de Genève, Louis II le traduit 62 fois par « séjour des morts » et 3 fois par « sépulcre », jamais par « enfer ». La deuxième signification du mot « enfer » vient du grec « tartaros » qui indique l'état de restriction des anges déchus. Ce mot ne s'applique pas aux humains qui pêchent. Nous lisons dans 2 Pierre 2, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes, tartaro, de ténèbres, et les réserve pour le jugement. » Encore une fois, Second ne traduit pas ce mot par « enfer ». La troisième signification du mot « enfer » vient du grec « géhenna », se référant littéralement à la vallée de Hinnon, à l'extérieur de Jérusalem. Les habitants de la ville y maintenaient un feu permanent où les déchets de la ville étaient réduits en cendres. Jésus nous avertit de ne pas craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, verset 28. Seules quelques versions en français moderne traduisent géhenna par enfer, mais les versions plus anciennes traduisent littéralement par géhenne. Ce feu de la géhenne était une représentation de l'étang de feu mentionné dans Apocalypse 21, verset 8. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si nous nous posons la question de savoir qui brûle en enfer, la réponse est personne, dès lors que nous parlons de Sheol ou Hadès. Qu'en est-il du feu de la géhenne? Si vous lisez depuis assez longtemps les publications du Monde de demain, vous savez que la Bible décrit trois résurrections à venir. La première résurrection est réservée aux saints, c'est-à-dire aux disciples de Jésus-Christ, qui auront vécu fidèlement en tant que disciples jusqu'à la fin de leur existence physique. Ils aideront leur Sauveur à diriger la terre pendant le millénium et ils continueront à exercer cette fonction pendant le jugement du grand trône blanc, c'est-à-dire l'époque qui fera suite au millénium lorsque la deuxième résurrection offrira à la majorité de l'humanité sa première véritable opportunité d'entendre et d'accepter Jésus-Christ en tant que Sauveur et de vivre selon sa voie. Nous lisons « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. » Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, versets 11 et 12. Purifiés par le feu. À la fin de cette période de jugement, ceux qui auront refusé d'obéir à Dieu, ceux qui auront endurci leur caractère dans le mal, seront jetés dans l'étang de feu, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, versets 14 et 15. C'est aussi le moment de la troisième résurrection. Ceux qui ont été appelés, mais qui ont rejeté Jésus-Christ au cours de leur vie passée, seront ressuscités pour recevoir le même châtiment que ceux qui auront rejeté le Christ après la deuxième résurrection. Ce châtiment est la seconde mort, décrite dans Apocalypse 20, de laquelle il n'y a plus aucune résurrection possible. Souvenez-vous que Dieu peut détruire à la fois le corps et l'âme dans le feu de la géhenne. Qui sera consumé par ce feu? Les méchants seront détruits, ils ne seront pas torturés pour l'éternité. Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, versets 7 et 8. Ce châtiment est appelé une mort, pas une torture éternelle. Certes, le châtiment sera éternel dans le sens où les méchants seront à tout jamais réduits à néant. L'étang de feu détruira totalement et pour toujours les êtres humains qui y seront jetés. Et il ne s'agira pas simplement de consumer une montagne de détritus à l'extérieur de Jérusalem. Ce feu embrassera toute la terre, car Dieu purifiera notre planète avant que la nouvelle Jérusalem ne descende du ciel. Nous lisons que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre 3, verset 10. S'agit-il d'un feu éternel? Notez ce que Jude a écrit au verset 7 de son épître, « Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent, comme eux, à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Qu'est-ce qu'un feu éternel selon la Bible? La réponse se trouve dans la parole de Dieu, pas dans notre imagination. les habitants de Sodome, de Gomorre et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Jude 1, verset 7. Si le feu éternel était celui qui brûle pour toujours, Sodome et Gomorre seraient encore en train de brûler de nos jours. Nous trouvons l'explication dans 2 Pierre 2, verset 6. Il, Dieu, a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre en les réduisant en cendres. Selon la Bible, le feu éternel est donc celui qui réduit en cendres. Qu'en est-il de vous? Les descriptions sinistres de Pierre devraient nous motiver à éviter une fin aussi affreuse. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, versets 11 à 13. Après que la terre aura été purifiée par le feu, les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront établis. Cependant, le tourment enduré par Satan et ses démons ne cessera jamais. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, Apocalypse 20, verset 10. Ils souffriront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, Matthieu 25, verset 41. Mais tout être humain jeté dans ce feu périra et sera détruit à tout jamais, comme le seront la bête et le faux prophète, Apocalypse 19, verset 20. Vous ne voulez assurément pas vous trouver dans ce feu. Vous pouvez vous repentir et être sauvé. Si vous pensez que Dieu vous appelle, je vous exhorte à contacter le bureau régional le plus proche de chez vous, adresse en page 4 de cette revue, afin de demander des conseils. Le monde de demain est représenté à travers le monde et nous serions heureux de vous rencontrer à votre convenance. Ferez-vous partie des fidèles disciples du Christ qui hériteront toutes choses, dont la terre, comme nous le lisons dans Hébreux 2, verset 8? Notez que Dieu promet de donner non seulement la terre aux véritables chrétiens, mais ensuite l'univers tout entier. Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 7. Songez à cette formidable promesse en parlant de l'humanité. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Hébreux 2, verset 8. Une promesse au-delà des cieux. Rien qui ne lui soit soumis et toute chose qui lui soit soumise. Oui, c'est la promesse qui nous est donnée. L'expression grecque traduite par « toute chose » dans Hébreux 2, verset 8 est « ta panta », signifiant littéralement « l'entièreté ». Comme les lexiques grecs l'expliquent, dans son sens absolu, « ta panta » désigne l'univers. Dieu veut vous donner, ainsi qu'à vos milliards de semblables, la domination non seulement sur la terre, mais sur l'univers tout entier. Dieu veut vous donner, ainsi qu'à vos milliards de semblables, la domination non seulement sur la terre, mais sur l'univers tout entier. Mais nous ne pourrons la recevoir qu'après avoir reçu la vie éternelle, une fois que nous serons devenus des enfants immortels de Dieu qui régneront pour l'éternité avec le Christ dans son royaume. Pendant le millénium, notre rôle, aussi essentiel soit-il, ne sera qu'un avant-goût des choses à venir. Le but de Dieu est de nous préparer à gouverner l'univers. Nous serons capables de voyager vers les galaxies les plus éloignées. Nous ne serons plus limités par l'espace et le temps. Dieu veut que nous libérions la création du déclin et de la corruption. Comme Paul l'écrivit, la création sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, verset 21. Nous ne passerons pas l'éternité à être oisifs dans les cieux, jouant de la harpe sur les nuages. Dieu nous prépare à une formidable destinée qui nous amènera dans l'univers entier. Remercions Dieu de son formidable plan de salut en Jésus-Christ. Grâce à ce plan, personne ne brûle en enfer et personne ne sera jamais détruit par le feu pour la simple raison de ne pas avoir entendu le nom de Jésus ou son véritable évangile. Pour l'instant, vos proches qui sont décédés dorment dans leur tombe. La plupart de ceux qui ont vécu et qui sont morts depuis la création de l'humanité n'ont jamais été appelés et n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, mais ils seront ressuscités au jugement du grand trône blanc afin de recevoir leur première véritable occasion de salut. C'est seulement après cette étape que les pécheurs endurcis seront jetés dans le feu de la Géhenne, où ils brûleront et seront détruits une fois pour toutes. Puissiez-vous choisir le mode de vie de Dieu et finalement recevoir son don de la vie éternelle.